Nouvelle encyclopédie des fouilles archéologiques en Terre Sainte. ACO. Par Eliezer Stern, Ehud Galili et Baruch Rosen. Le camp des Hospitaliers. Histoire en 1104, 5 ans après la prise de Jérusalem, ACO fut assiégé par terre et par mer par Baudouin Ier, roi de Jérusalem, avec l'aide de la flotte génoise, et la ville tomba aux mains des croisés. Au début de la domination croisée à ACO, les Hospitaliers reçurent des biens dans la ville. La première mention de ces biens apparaît dans des documents de l'année 1110, qui indique que le roi Baudouin Ier autorisa les Hospitaliers à conserver la propriété des bâtiments reçus en don au nord de l'église de la Sainte-Croix. En 1135, certains bâtiments de l'ordre furent endommagés lors de l'agrandissement du campement de l'église vers le nord. De ce fait, les Hospitaliers quittèrent la zone et entreprirent la construction d'un nouveau campement dans le secteur nord-ouest de la ville, jouxtant les remparts nord d'ACO, datant du XIIe siècle. Ce complexe représente l'enceinte des Hospitaliers telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il est mentionné pour la première fois dans un document datant du règne de la reine Mélisande, 1149, qui relate la construction de l'église Saint-Jean dans le quartier des Hospitaliers, au sud de la nouvelle enceinte. En 1169, le pèlerin Théodoric visita Acre et décrivit l'enceinte des Hospitaliers comme un impressionnant édifice fortifié, comparable seulement à la forteresse des Templiers. Après la défaite des croisés à la bataille de Hattin en 1187, Acre fut prise par les musulmans et ses habitants chrétiens s'enfuirent, pour n'y revenir que 4 ans plus tard, 1191, lors de la reprise de la ville pendant la troisième croisade. Au retour des Hospitaliers à Acre, les bâtiments du XIIe siècle ne répondaient plus à leurs besoins, et n'ont pas subsisté jusqu'à nos jours, voire ci-dessous, Acre étant alors devenue la capitale du royaume croisé après la perte par l'ordre de sa principale forteresse et de son quartier général à Jérusalem. Guy de Lusignan, 1192, et Henri de Champagne, 1193, nouveaux souverains du royaume croisé, renouvelèrent les droits des Hospitaliers à Acre, leur permettant d'étendre leur enceinte jusqu'à la rue longeant les remparts nord de la ville. De nouvelles constructions furent entreprises pour loger le supérieur de l'ordre et son quartier général à Acre. Les travaux, commencés à la fin du XIIe siècle et se poursuivant au XIIIe siècle, agrandirent la propriété des Hospitaliers, de nouvelles ailes et des étages supplémentaires furent ajoutés à l'ancien complexe. Les Hospitaliers érigèrent également de nouveaux bâtiments dans le nouveau quartier, Montmusard, étendant ainsi les limites de la ville au nord et construisant une nouvelle enceinte avant 1212. Historique des recherches, les études sur la période des croisades à Acre débutèrent avec la documentation des ruines de la ville par les nombreux pèlerins qui la visitèrent du XIVe au XVIIIe siècle. Parmi les pèlerins les plus importants figurent le néerlandais Cornelis de Bruyn, qui visita Acre en 1679 et réalisa des croquis des édifices des Hospitaliers, et Garbord d'Orcières, qui effectua un relevé méticuleux du panorama de la ville depuis la mer en 1685. Les principaux bâtiments de la cité en ruine furent également identifiés à cette époque. La ville croisée était alors désertée, ses bâtiments rasés et une partie enfouie sous le sable. Au XVIIIe et XXe siècle, soudain Harald Aemer, 1750-1775, Amma al-Jazar, 1775-1804, et leur successeur, une nouvelle ville fut érigée, dissimulant les vestiges de la cité croisée. De 1955 à 1964, des fouilles furent menées dans les vestiges croisés du quartier des Hospitaliers, à l'initiative de l'éminent spécialiste de la période des croisades, J. Praoué. Ces fouilles ont mis au jour les salles 1 à 3, un étroit couloir dans la salle à piliers et la salle voûtée, un réfectoire, appelé Atorcrypte. En 1990, suite à la découverte de fissures menaçant la salle à piliers dans les vestiges croisés, des fouilles exploratoires ont été menées dans la cour de promenade de la prison du mandat afin de soulager la pression exercée par les remblais sur ces vestiges. Des fouilles de grande envergure, menées par l'autorité des antiquités d'Israël et financées par le ministère du Tourisme, ACO Development Company, ont suivi à partir de 1992. Elles ont été dirigées par Eustern et M. Avissard de 1992 à 1996, puis par Eustern à partir de 1997. Résultat des fouilles. Le bâtiment mis au jour lors des fouilles décrites ci-dessous représente la phase finale du complexe des Hospitaliers au moment de son abandon en 1291. Sa construction a débuté dans la première moitié du XIIe siècle et s'est déroulée en plusieurs étapes. La cour centrale. Le complexe était organisé autour d'une cour centrale ouverte, 1200 mètres exposant d'eux. Au nord de la cour se trouvait un puits, 4,5 mètres de profondeur, deux bassins peu profonds enduits, 40 cm de profondeur, y étaient attenants et se déversaient dans le système d'égout principal, voire ci-dessous, par un canal souterrain. Au sud de la cour se trouvait un autre puits, à côté, un bassin enduit, 1,5 mètre de profondeur, en forme de baignoire. Le puits nord fournissait vraisemblablement l'eau potable et servait également à laver le linge, tandis que celui du sud était destiné au bain. La cour était entourée d'arcades. Un escalier, à l'est, menait aux étages supérieurs. L'aile nord. Adossée au rempart nord de la ville, l'aile nord se composait d'une rangée de 10 salles. Les salles 1 à 6 formaient un seul ensemble divisé en salles distinctes par des murs percés de portes cintrées et coiffées d'une voûte en berceau de 10 mètres de haut. Des réparations avaient été effectuées sur les plafonds de la structure croisée et sur certaines portes entre les salles. Les murs extérieurs de ce complexe étaient massifs et construits en pierre de taille de 3,5 mètres d'épaisseur, indiquant qu'il s'agissait à l'origine d'un bâtiment indépendant. Les salles 7 et 8 furent ajoutées ultérieurement à l'ouest. Des fenêtres percées dans le mur sud des salles donnaient sur la rue passant entre les salles et la salle à colonnes, au sud. L'entrée des salles se situait dans le mur sud de la salle 2, où une ouverture de 4 mètres de large reliait les salles à la grande salle du sud par un couloir couvert. Une autre porte, dans le mur nord de la salle 2, menait à une place pavée dans les douves nord. Un large escalier en pierre de taille longeait la façade extérieure des murs nord des salles menant à la place. Au sommet de 8 marches se trouvait un palier ouvert où l'escalier changeait de direction et bifurquait vers le nord. La suite de l'escalier n'a pas été conservée, mais il se poursuivait probablement par un pont de pierre enjambant les douves nord de la ville, jusqu'à la tour des Hospitaliers, Turis Hospitali, qui gardait la porte Sainte-Marie, laquelle s'ouvrait sur la route nord de Tyr par Montmusard. Salles 7 à 8. Les salles 7 et 8, sur 3 niveaux, furent ajoutées ultérieurement. Le niveau inférieur abritait un grand réservoir d'eau de pluie, divisé en deux salles de 13 mètres sur 5 mètres et de 7,5 mètres de haut, couvertes d'une voûte en berceau. Ces salles étaient entièrement recouvertes d'un épais enduit hydraulique, dont la majeure partie est bien conservée sur les murs. Une large ouverture cintrée reliait les deux salles du réservoir, les transformant en un seul volume d'une capacité d'environ 1000 mètres exposant 3. L'orifice de remplissage du réservoir se situait dans la partie nord du plafond de la salle 8, et son ouverture, qui permettait de vider le réservoir et d'effectuer des travaux d'entretien, se trouvait dans la partie sud du plafond de la salle 7. Le premier étage était occupé par des salles et des entrepôts correspondant aux salles situées en dessous. Ces salles du premier étage, hautes de 7 mètres, possédaient une voûte en berceau qui s'était effondrée. De larges fragments de la voûte ont été retrouvés sur un remblai de plus de 3 mètres d'épaisseur, preuve que l'effondrement s'est produit longtemps après l'abandon du bâtiment par les Hospitaliers en 1291. Après le dégagement du remblai lors des fouilles, des centaines de récipients en céramique ont été découverts in situ, disposés en rangée sur le sol du bâtiment. Ces récipients, de forme conique et ouverts à leur base, contenaient du sucre et étaient empilés les uns dans les autres le long du mur et de la salle 7. De la paille était disposée sur le sol entre les rangées pour éviter la casse. Dans une autre partie du hall, des dizaines de jarres à mélasse jonchaient le sol. Ces jarres servaient à la dernière étape de la production de sucre cristallisé, l'une des industries les plus importantes de Terre Sainte à l'époque des croisades. Ce vaste entrepôt et son nombre considérable de récipients utilisés pour la production de sucre corroborent les nombreux documents historiques qui attestent du rôle prépondérant joué par les Hospitaliers dans la production de sucre dans la région d'Akko. Cette entreprise florissante remplissait les caisses de l'ordre des Hospitaliers. Un escalier adossé au mur sud de la salle lui menait au troisième étage. De cet étage, il ne subsiste rien, mais les vestiges considérables mis au jour dans les décombres indiquent qu'il était de style gothique élégant. Les claveaux des arcs gothiques étaient ornés d'une fresque polychrome noire, jaune et rouge. Outre les claveaux, la clé de voûte, la pierre centrale de la voûte d'ogive gothique, a également été retrouvée dans les décombres, là où elle s'était détachée du plafond. D'une taille inhabituellement grande, cette clé de voûte présente un décor en forme de rosace à feuilles d'acanthe. Trois clés de voûte ont été mises au jour à ce jour. Les nombreux fragments du plafond ouvragé découverts lors des fouilles permettront certainement d'en reconstituer au moins partiellement le contenu. Salle 9. La salle 9 servait de passage entre la cour centrale et les douves nord, par une porte cintrée surmontée d'une imposante tour. Le passage était couvert d'une voûte en berceau. Salle 10 et système d'égout central. L'aile située dans l'angle nord-ouest du complexe, haute de 3 étages, abritait les latrines publiques. Le rez-de-chaussée servait de chambre d'égout souterraine où de nombreux drains intégrés au mur évacuaient les déchets des latrines publiques des 2e et 3e étages. Des canalisations supplémentaires, dissimulées dans les murs extérieurs du bâtiment, acheminaient les eaux pluviales des toitures à travers les 3 étages pour laver le sol de la chambre souterraine. Cette dernière était reliée par 5 canaux à un canal principal qui drainait les douves nord de la ville et traversait le complexe des hospitaliers du nord au sud pour drainer la cour centrale, ses puits et bassins, les autres ailes et les latrines publiques. Le tracé de ce canal principal a été étudié lors de plusieurs sondages effectués dans la ville, révélant qu'il s'agissait d'un égout municipal, d'un mètre de large et d'au moins 1,5 mètre de haut, traversant la ville du nord au sud et se jetant dans la mer près du port. Le sol incliné de la chambre d'égout souterraine était pavé de dalles de pierre lisse afin de faciliter l'écoulement vers le canal principal. Au-dessus de cette fosse septique se trouvait le premier étage des latrines, une pièce, 10 mètres sur 5 mètres, couverte de voûtes d'arêtes de 10 mètres de haut, équipée de 2 rangées de sièges le long des murs nord et sud, et de 2 rangées supplémentaires au centre. Chaque rangée comportait 8 sièges reliés par des canalisations directement à la fosse septique. La ventilation était assurée par 3 fenêtres donnant sur les douves nord, percées dans le mur nord de la pièce. Au-dessus se trouvait une autre salle de latrine, aujourd'hui incomplète, une salle ayant été construite à cet emplacement durant la période ottomane. Le sol de cette salle ne comportait apparemment qu'une rangée de sièges de toilettes en pierre le long de 2 de ses murs. Des fouilles effectuées sous cette pièce ont permis de mettre au jour certains de ces sièges. Ces derniers se situaient à 40 cm au-dessus d'un canal menant à un drain mural qui évacuait les déchets dans la fosse septique souterraine. Ce complexe de latrines, mis au jour dans son intégralité, constitue une découverte rarissime, avec peu d'équivalent dans les monastères et hôpitaux des XIIIe et XIVe siècles en Angleterre et au Pays de Galles. L'aile ouest. Bien qu'elle n'ait pas encore été fouillée, certaines découvertes dans l'aile ouest indiquent qu'elle comportait au moins 2 étages, le 2e étage d'un des murs a été conservé. Le bâtiment reste visible dans les décombres de la partie ouest de la cour ouverte, et les chapiteaux, ornés de motifs de vannerie et de figures humaines, sont conservés in situ sur le mur. L'aile sud servait apparemment de logement à l'ordre, car elle donnait sur la cour ouverte par 2 larges ouvertures cintrées. L'aile sud. L'aile sud du complexe abritait la salle la plus imposante. Fouillée dans les années 1960 par l'autorité des parcs nationaux, elle fut identifiée par certains chercheurs comme la crypte de Saint-Jean, car on pensait qu'elle avait servi de fondation à l'église du même nom érigée au-dessus. Les fouilles récentes ont cependant clairement établi que cette identification est erronée, voir ci-dessous, église Saint-Jean. La salle était construite selon une série de 8 voûtes d'ogives, hautes de 10 mètres, soutenues par 3 colonnes rondes en pierre d'environ 3 mètres de diamètre. Les nervures soutenant la voûte étaient portées par des consoles fixées au mur. Ces consoles sont ornées de guirlandes de fleurs, de paniers et de fleurs de lys. Des rosaces étaient sculptées sur certaines voûtes d'ogives, à l'intersection des nervures. L'édifice est considéré comme un exemple de style de transition entre le roman et le gothique. Il servait de réfectoire à l'ordre, la salle non fouillée située à l'est faisant peut-être office de cuisine. Des fouilles récentes menées en dessous ont mis au jour un réservoir souterrain destiné à recueillir les eaux pluviales. L'aile. L'aile comprenait une immense salle à colonnes, environ 1300 mètres exposant d'eux, construite en une quinzaine de travées identiques, voûtée d'arêtes de 8 mètres de haut et soutenue par des rangées de piliers carrés en pierre. La partie centrale de la voûte a conservé sa forme originale, tandis que les côtés sud et nord se sont effondrés. Des fragments de cette voûte ont été mis au jour sur un remblai de 3 mètres de haut, preuve que l'effondrement est survenu bien après la période des croisades, peut-être lors des travaux de construction ottomans du XVIIIe siècle. La salle de la prison. À l'est de la grande salle à colonnes se trouvait une autre salle, non reliée directement à l'enceinte des hospitaliers, mais à la rue publique qui longeait son côté. Cette salle, 2,5 mètres plus basse que les bâtiments adjacents, son sol ayant été creusé dans la terre vierge, comportait 6 voûtes d'arrêt de 5 mètres de haut. Étant donné l'absence de fenêtres et d'autres sources d'éclairage, hormis l'entrée située au sud, et le fait que la salle était séparée du reste du complexe et construite à un niveau inférieur à celui des maisons du quartier, on peut supposer qu'elle servait de prison au quartier des hospitaliers, mentionné dans les sources historiques contemporaines. Des paires de niches carrées, 3 à 4 cm de côté et 2 à 3 cm de profondeur, étaient creusées dans la pierre des murs et des piliers soutenant le plafond. Elles accueillaient peut-être des crochets métalliques auxquels les prisonniers étaient enchaînés. La rue sud. Une voie publique a été découverte au sud du complexe des hospitaliers. Elle traversait le quartier des hospitaliers, partant de la Porta Hospitali, sur le rempart nord de la ville, et longeant le mur et du quartier vers le sud. La rue bifurquait ensuite vers l'ouest, passant entre le complexe et l'église Saint-Jean, puis, après une cinquantaine de mètres, vers le sud en direction du quartier génois. À cet endroit, une porte monumentale en pierre permettait aux hospitaliers de bloquer l'accès public à la rue en cas de danger. La majeure partie de cette rue de 4 mètres de large n'était pas couverte, Mais de courts tronçons présentaient une voûte en berceau. Une autre rue publique, particulièrement large, environ 10 mètres, et pavée de pierre, bifurquait vers l'est, le quartier du roi. Une rangée de boutiques, dont trois ont été mises au jour, se dressait du côté sud de cette rue. Autre vestige des croisades, l'église Saint-Jean. La construction de l'église Saint-Jean est mentionnée pour la première fois dans un document daté de 1141, sous le règne de la reine Mélisande. L'église s'élevait à une hauteur considérable et avait été construite au-dessus d'une série de voûtes orientées et ouest et composée de deux parties. La partie ouest, préexistante avant la construction de l'église, comprenait deux nefs couvertes d'une voûte en berceau. La partie est, ajoutée lors du début de la construction de l'église, se composait de quatre travées couvertes de voûtes d'arêtes de 5,5 mètres de haut. Ces caveaux souterrains, restés intacts lors de la destruction de l'église, sont communément appelés les salles El Bosta. Leur fouille, entreprise dans les années 1950, a permis de mettre au jour deux pierres tombales datant de l'époque des croisades. L'une, en marbre, porte une inscription latine mentionnant le décès, en 1242, du 9e supérieur de l'ordre des Hospitaliers, Pierre de Vieille-Brioude. L'autre, également en marbre, est ornée d'une inscription française attestant de la sépulture de l'évêque de Nazareth, décédé en 1290. L'église Saint-Jean fut détruite en 1291 et un bâtiment administratif ottoman, Soreya, fut érigé à son emplacement au début du 19e siècle. Des sondages dans la cour du Soreya ont mis au jour une section de sol pavé de dalles de marbre de couleurs variées, trois colonnes de marbre effondrées encore en place, un chapiteau corinthien en marbre orné d'une fresque polychrome, et un autre chapiteau similaire où figure une croix de Malte orange sur fond noir. De nombreux fragments d'un vitrail polychrome gisaient sur le sol en marbre. L'entrée principale de l'église, large de 4 mètres, a été dégagée sur le côté du bâtiment, son seuil et les gonds de sa porte sont en granit noir. Le tunnel des Templiers. Sous les bâtiments ottomans du quartier des Templiers, dans la partie sud-ouest de la vieille ville, un tunnel souterrain en pierre de 350 mètres de long, traversant la ville d'ouest en est, a été mis au jour. À l'ouest, le tunnel prenait naissance dans une petite baie où se dressait, à l'époque des croisades, une forteresse de l'ordre du Temple. Creusé dans la roche et couvert d'une voûte en berceau, il atteignait, 70 mètres plus loin, une salle très haute construite au-dessus du toit du tunnel existant. À cet endroit, les Templiers tenaient apparemment un poste de contrôle à la frontière entre leur quartier et le quartier Pisan, à l'est. Le tunnel se poursuivait vers l'est sur 250 mètres sous le quartier Pisan et atteignait le port d'Acco. Ce tronçon, creusé dans la roche, se divisait en deux tunnels étroits et parallèles, d'environ 1,5 mètre de large et 2 mètres de haut chacun. Ce tunnel servait vraisemblablement de passage pour les personnes et les marchandises, reliant directement le quartier des Templiers au port. La rue couverte du quartier Genèse. Une prospection archéologique menée par Bézet Kedar et Eustern a mis au jour une rue de boutique couverte au cœur de la vieille ville, qu'ils ont ensuite fouillée. La rue, orientée et ouest, était dégagée sur une quarantaine de mètres, mais la prospection a révélé une longueur d'environ 100 mètres. Construite en pierre de taille, elle mesurait environ 8 mètres de haut et 5 mètres de large et était couverte d'une voûte d'ogives en pierre soutenue par des nervures. Des entrées de part et d'autre de la rue donnaient accès aux boutiques et aux ateliers. Elle daterait de l'époque des croisades, XIe siècle, et pourrait être la rue couverte du quartier génois mentionnée dans plusieurs documents croisés contemporains. Les bains des croisés dans le quartier Montmusard. En 1996-1997, une fouille de sauvetage a été menée au sud du commissariat d'Acco, vers à 300 mètres au nord des remparts de la vieille ville, sous la direction de H. Smithlin et Eustern pour le compte de l'autorité des antiquités d'Israël, des fouilles ont mis au jour un bain public de l'époque des croisades, 22 mètres x 7 mètres, orienté ouest. Au centre de ce bain se trouvait un fourneau de 5 mètres x 5 mètres, dont la chambre de combustion, 3,5 mètres de diamètre, était conservée jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres. Le fourneau comportait trois ouvertures, celle orientée à l'ouest donnait sur une cour intérieure plus basse que le sol du bain public et servait vraisemblablement au stockage du bois de chauffage. L'air était insufflé pour chauffer le sol inférieur du caldarium par les deux autres ouvertures du fourneau, l'une orientée au nord et l'autre à l'est. L'hypocauste était installé dans le caldarium, 14 mètres x 7 mètres, qui entourait le fourneau au nord et à l'est. Le sol inférieur était constitué de blocs de calcaire dur, mesurant environ 30 cm x 25 cm. La base, d'une épaisseur de 7 cm, supportait de petites colonnes de calcaire de 80 cm de haut. Le sol était constitué de dalles de calcaire posées sur les colonnes, recouverte d'une couche de 30 cm d'argile orange mêlée de fragments de calcaire. Cette couche servait de linceul en marbre polychrome, en grande partie pillé durant la période ottomane, XVIe siècle, des fragments de ce sol subsistent dans la région. Les murs des bains étaient construits en calcaire bien taillé, presque entièrement pillé durant la période ottomane, comme en témoignent les pipes à fumée en terre cuite du XVIIIe siècle découvertes dans les tranchées creusées par les pilleurs. Il est donc difficile de reconstituer le plan complet du bâtiment. À l'est des bains se trouvait un canal d'adduction d'eau en pierre, recouvert d'un enduit blanc, qui alimentait la structure en eau. Dans la partie nord du caldarium, on a mis au jour les vestiges d'un conduit de circulation d'air chaud. Un riche ensemble de céramiques de l'époque hellénistique, IIIe siècle avenue J, C, et des murs construits sur un sol vierge ont été mis au jour lors de sondages effectués sous les sols des croisades. La datation des thermes, basée sur les céramiques découvertes, les situe au XIIIe siècle, confirmant ainsi les informations historiques relatives à la construction du quartier de Montmusard. Elizer Stern Le Port. Fouille. Entre novembre 1992 et juin 1993, le port d'Akko a été approfondi afin de permettre l'accueil de bateaux d'un tirant d'eau de plusieurs mètres. Les travaux ont été réalisés sous étroite surveillance archéologique, sous la direction de Galilée Y. Charvy, et les matériaux remontés du fond du port ont été examinés. Une grue à benne preneuse a dragué les sédiments contenant le matériel archéologique et les a déposés sur une barge à fond ouvrant. Le matériel a ensuite été immergé en pleine mer et inspecté par des plongeurs. Le port a été divisé en trois zones principales, la zone A, la partie ouest du bassin A, à l'est du port moderne, la zone B, l'entrée du bassin ouest, et la zone C, la partie intérieure du bassin ouest. La description des découvertes qui suit a été rédigée en collaboration avec N. Basil Berstein, Y. Charvy, E. J. Stern, G. Finkiel Stejner Erkol, tous de l'autorité des Antiquités d'Israël. Y. Kahanov, du département des civilisations maritimes de l'université de Haïfa, et Desvili, du département de géographie de l'université de Haïfa. Résultat des fouilles. Âge du bronze, âge du fer et période perse. Très peu d'objets de l'âge du bronze ont été mis au jour, hormis deux ancres en pierre à une seule perforation et un lingot de bronze en forme de pain. Aucune trace de l'âge du fer n'a été retrouvée, seuls quelques tessons de la période perse ont été extraits. La rareté des vestiges antérieurs au IIIe siècle avant notre ère et l'absence totale de céramique attique importée, pourtant répandue dans la région côtière, attestent de l'absence d'activité maritime d'envergure au port d'Akko avant la période hellénistique. Il a été suggéré que, durant l'âge du bronze, les fleuves de la côte levantine, notamment le Naaman, servaient de ports intérieurs. Cependant, aucune preuve archéologique, épave, équipement d'amarrage, ancre, etc., ne témoigne de l'existence d'un port de l'âge du bronze situé à l'intérieur d'un fleuve côtier. Selon Ugalili, les mouillages de cette période se trouvaient en mer, dans des zones partiellement protégées par des bancs de sable, curcar. Cette hypothèse repose sur les résultats de prospection sous-marine menée ces 40 dernières années sur la côte israélienne et sur la supposition que les embouchures des fleuves étaient généralement obstruées par des bancs de sable, comme c'est le cas aujourd'hui. Il s'ensuit que les lits des fleuves, près de leurs embouchures, étaient peu profonds et impraticables pour la navigation hauturière. Il semble qu'à l'âge du bronze, des bancs de sable naturels, curcar, existaient au sud-est de la péninsule sur laquelle se dressait la ville. Ils offraient une protection partielle contre les vents du sud-ouest, de l'ouest et du nord en été et durant les intersaisons. Ils servaient également de mouillage naturel, à l'instar de ceux découverts à Tel Ridan, Yavneyam, Apollonia, Dor, Neviam et Atli. Plus tard, la digue sud et les fondations de la tour des mouches furent construites sur ces bandes de sable. De nombreuses preuves archéologiques témoignent d'une activité commerciale intense dans les villes côtières du Levant, notamment à Acre, à l'âge du fer. A l'inverse, les vestiges de cette période sont rares dans les fonds marins peu profonds d'Israël et totalement absents du port d'Acre. Aucune explication plausible n'a encore été avancée pour expliquer ce phénomène. Selon Araban et Eulinder, la digue sud du port aurait été construite à l'époque perse pour accueillir la flotte de Cambyse. Or, les fouilles du port n'ayant mis au jour que de maigres tessons de pierre datant de cette période, elles ne permettent pas de confirmer cette hypothèse. Il est toutefois possible que des artefacts de l'âge du fer et de l'époque perse reposent enfouis au fond du bassin ouest, sous une épaisse couche de sédiments, et n'aient pas été accessibles par le dragage lors du dragage du port. L'époque hellénistique. À en juger par la richesse et la diversité des découvertes, les activités maritimes dans le bassin occidental du port ont connu une transformation profonde durant l'époque hellénistique. L'abondance de céramique, notamment des amphores, Des récipients domestiques et des objets en métal témoignent d'échanges commerciaux importants avec les pays méditerranéens et d'importations massives de denrées alimentaires en provenance de la mer Égée. Ces découvertes, ainsi que la présence de sédiments limoneux fins dans le port, attestant d'une mer calme et de bonnes conditions d'amarrage, indiquent que la digue sud date de l'époque hellénistique. Les vestiges archéologiques mis au jour en mer corroborent ainsi la thèse, proposée par De Jacobi, Herger Toijan, Afflindé et d'autres, selon laquelle le port aurait été construit à cette période. D'après Linder et Raban, les fondations de la tour des Mouches auraient été érigées par les Phéniciens durant la période perse, mais aucune preuve archéologique n'est venue étayer cette hypothèse à ce jour. D'après Gertoijan et Jacobi, ainsi que Galili et Bérozen, les fondations de la tour des Mouches furent construites à l'époque hellénistique, en même temps que la digue sud. La ville de Tyr et son port, principal port de la Méditerranée orientale, avaient été entièrement détruits par Alexandre le Grand à la fin du IVe siècle avant notre ère, ce qui favorisa vraisemblablement l'essor et le développement du port d'Aqua, comme en témoignent les découvertes archéologiques sous-marines. La plupart des amphores hellénistiques identifiées, environ 80%, provenaient de la région égéenne. 8% des côtes de Syrie et de Palestine, 5% d'Égypte et d'Afrique du Nord, et quelques pourcents d'Italie. Époque romaine. Parmi les vestiges de l'époque romaine figurent de nombreuses jarres de stockage et des récipients domestiques, notamment des bols et de la céramique sigillée occidentale, une céramique que l'on retrouve rarement dans le répertoire céramique romain des sites continentaux. De nombreux objets métalliques ont également été récupérés. Certains sont ornés d'inscriptions et de motifs maritimes. Le fond d'une assiette en terre sigillée orientale présente une représentation incisée d'une barque dont la proue est amarrée à un arbre, selon la tradition méditerranéenne. Des encres en fer sont gravées sur les côtés d'un bol profond. Dans la partie nord du port, à 3,5 mètres de profondeur, ont été découverts les vestiges de la coque en bois d'un navire, comprenant des éléments en bois et des clous en bronze à section carrée. Des analyses en laboratoire ont indiqué que la charpente était en pin d'origine européenne, datée au carbone 14 entre 144 et 213 après J. C. Datation calibrée. Le bordage de la coque, assemblé par tenons et mortaises, était fait du même bois et daté entre 147 et 250 après J. C. Le navire peut donc être daté de l'époque romaine, au siècle après J. C. La taille des clous et des morceaux de bois restants suggère que le bateau était de taille moyenne, 15 à 22 mètres de long. Il semble avoir fait naufrage dans le bassin ouest du port. Outre le rôle militaire du port à l'époque romaine, mentionné dans les sources historiques, les céramiques découvertes attestent qu'il entretenait alors des relations commerciales étendues avec les pays méditerranéens. La mise au jour de marchandises de luxe importées révèle qu'à l'époque romaine, le port d'Aqua répondait aux besoins d'une société comptant de riches consommateurs. Ces découvertes corroborent les références écrites au port d'Aqua et à ses fonctions. Elles indiquent également qu'à l'époque romaine, les principales activités maritimes étaient apparemment concentrées dans le bassin occidental, protégé par la digue sud et pouvant accueillir des bateaux de taille moyenne d'un tirant d'eau de 2,5 à 3 mètres. La moitié des amphores romaines identifiées provenaient des mers Égée et Noire, un cinquième d'Italie et de Méditerranée occidentale, 16% des côtes de Syrie et de Palestine, et 10% d'Afrique du Nord. L'époque byzantine. D'après les documents historiques, le port souffrit de négligence et la ville déclina durant l'époque byzantine. Néanmoins, de nombreuses découvertes sous-marines le long des côtes d'Israël, principalement des épaves et des ancres en fer, témoignent d'une importante activité commerciale à cette époque. Une quantité considérable de céramique byzantine a été mise au jour dans le port. La plupart des objets datant de cette période, dont quelques fragments de bois, des clous en bronze et plusieurs pièces de monnaie, proviennent de la zone B. 16 objets proviennent probablement d'un navire qui avait jeté l'ancre à cet endroit lors d'une tempête et qui a fait naufrage à l'entrée du port. Dans le bassin ouest, zone C, plusieurs ancres en fer brisées ont été récupérées. La présence de ces ancres brisées et la rareté des vestiges byzantins dans le bassin ouest permettent de conclure que les conditions de mouillage étaient extrêmement défavorables à cette époque. Faute d'entretien adéquat après la période romaine, la digue sud a probablement été détruite et n'offrait plus de protection aux navires, obligeant les marins à jeter l'ancre dans le bassin ouest ou en pleine mer pour assurer leur sécurité. Des amphores du 8e siècle découvertes dans les vestiges de l'épave byzantine indiquent que le commerce maritime des marins byzantins s'est poursuivi au début de la période islamique. Près de la moitié des amphores byzantines identifiées provenaient des mers Égée et Noire, 40% des côtes de Syrie et de Palestine, 3% d'Afrique du Nord et 6% de la Méditerranée occidentale. Le début de la période islamique. L'historien Al-Mukaddasi décrit la construction du port d'Akko par Ibn Tulun et sa fermeture par une chaîne. Selon Linder et Raban, les ports d'Ibn Tulun et des croisades n'occupaient que le bassin occidental. Cependant, aucun vestige archéologique du début de la période islamique n'y a été trouvé. L'essentiel de l'activité portuaire durant cette période se déroulait apparemment dans le bassin oriental, du rempart oriental vers l'ouest, probablement en raison de l'ensablement du bassin occidental. L'existence de la chaîne traversant le port durant la période islamique fait également débat. Soit la chaîne fermait l'entrée du bassin ouest, de l'extrémité du rempart à l'extrémité orientale de la digue sud jusqu'à la tour ronde du mur près du restaurant Ptolémée, sur une distance d'environ 70 mètres, soit elle s'étendait vers l'est, jusqu'à la tour des mouches, sur une distance d'environ 100 mètres. Flinder et Jacobi ont cependant affirmé que la chaîne fermait l'entrée sud du port. Puisqu'aucune découverte datant du début de la période islamique n'a été faite dans le bassin ouest, le port décrit par Al-Mukaddasi semblerait avoir été situé dans le bassin est, la chaîne étant tendue entre la tour des mouches et l'extrémité orientale de la digue sud, comme l'a proposé Gertois Jean. Pour franchir cette grande distance et empêcher le passage au-dessus de la chaîne, celle-ci était probablement maintenue à flot par des poutres ou des barges en bois. Une technique similaire, utilisant des poutres en bois flottantes pour maintenir une chaîne en travers du port d'Akko, est mentionnée dans un document contemporain. Gertois Jean a suggéré que le rempart oriental servait de digue. Cependant, comme la rive orientale de la baie est proche du port et empêche les vents de générer de fortes vagues susceptibles de mettre en danger les bateaux ancrés dans le port, on peut supposer que le rempart oriental reliant la tour des mouches à la rive n'a pas été construit comme une digue, mais comme une barrière pour empêcher l'entrée des navires ennemis venant de l'est. Il a pu également servir de voie d'accès pour la construction des bâtiments de la tour des mouches. Un édifice similaire existe dans le port de Sidon, où une voie d'accès depuis le continent a été construite sur des arches en pierre. De futures fouilles du rempart oriental et du bassin oriental pourraient apporter des éclaircissements sur ces questions. L'époque des croisés. Des vestiges de l'époque des croisades ont été mis au jour principalement près de l'entrée du bassin ouest, zone A et B, à l'extérieur du port hellénistique et romain. Seuls quelques tessons isolés ont été extraits du bassin ouest. Ces poteries provenaient de Chypre, de Syrie, d'Anatolie, de la mer Égée et d'Italie. Un trésor de 21 pièces d'or, identifié comme des florins frappés à Florence dans la seconde moitié du XIIIe siècle, a également été découvert. Cette découverte concorde avec des documents historiques relatant la fuite de riches chrétiens emportant leurs biens précieux lors de la prise de la ville par les Mamelouks le 18 mai 1291. Durant leur fuite, ils payèrent des bateliers locaux pour les transporter de la côte jusqu'à de grands navires ancrés au large. Selon les sources historiques, le port d'Akko était le principal port du pays à l'époque des croisades. Les documents contiennent de nombreuses références aux activités militaires, économiques et civiles qui s'y déroulaient. Les découvertes faites ces dernières années lors de fouilles sur le continent confirment ces sources historiques. Ainsi, la rareté des vestiges découverts au fond du port est quelque peu surprenante. Cette divergence entre les données historiques et les découvertes portuaires peut s'expliquer de deux manières. Il est possible que les vestiges croisés aient été mis au jour par-dessus des vestiges plus anciens dans le bassin ouest du port et qu'ils aient été déplacés dans les années 1970 et 1980 lors du dragage du port. Une autre explication, peut-être plus plausible, est qu'à l'époque des croisades, le bassin ouest était envasé par manque d'entretien, comme au début de la période islamique, et que toute activité maritime se concentrait alors dans le bassin est. Ce dernier n'ayant pas été dragué lors des travaux d'aménagement actuels, cela pourrait expliquer la rareté des vestiges de l'époque des croisades. Des documents attestent de l'amarrage de navires de taille moyenne à l'extérieur du port, notamment du transport d'une cargaison d'encre en fer de Venise à Acre en 1288. Période mamelouk et ottomane. De nombreux vestiges des périodes mamelouk et ottomane ont été mis au jour à l'entrée du bassin occidental et à l'est de celui-ci, zone A et B. Durant ces périodes, il semble que de grands navires à fort tirant d'eau mouillaient à l'aide du bassin occidental et que les marchandises étaient transbordées des navires vers le rivage à l'aide de petites embarcations. Les céramiques découvertes témoignent de relations commerciales avec des régions de la Méditerranée orientale, notamment des parties de la Turquie, de la Syrie, du Liban et de l'Égypte actuelle. À l'entrée du port des pêcheurs, zone A, à une profondeur de 3 à 4 mètres et à une distance d'environ 20 à 30 mètres au nord-est de l'extrémité de la digue actuelle, un groupe de 11 piliers de bois verticaux à section rectangulaire, 20 x 15 cm, a été découvert, enfoui dans le fond marin. Ces piliers étaient disposés en triangle, mesurant 28 x 28 x 14 mètres. D'autres piliers appartenaient probablement à cette construction, mais furent déplacés au fil des ans par les filets de pêcheurs, les ancres ou les fréquents travaux d'approfondissement à l'entrée du port. Des analyses au radiocarbone ont daté les colonnes du 15e siècle, 1475 plus ou moins 50 ans BP, datation non calibrée. 1425, 1461 après. J, C, datation calibrée. Le bois a été identifié comme étant du pin européen. Cette construction servait probablement de quai ou de jetée, bâtie sur piliers et utilisée pour l'amarrage de grands navires, avec un tirant d'eau de 2 à 3 mètres, près de l'entrée du port, mais dans une zone d'eau relativement profonde. Elle était peut-être reliée par un pont de bois au rempart peu profond situé à l'extrémité de la digue sud, ou bien complètement détachée du rivage. En 1291, Akko fut rasée par les Mamelouks et abandonnée, elle resta désertée pendant des siècles. Le port de la ville fut détruit et obstrué pour empêcher le retour des chrétiens. Néanmoins, les témoignages de voyageurs et de pèlerins ayant navigué depuis le port d'Akko à cette époque indiquent que, malgré sa destruction, le port continua d'être utilisé au XIVe et XVe siècle. La ville abandonnée abritait des entrepôts de marchands vénitiens venus de Damas, qui exportaient du coton vers l'Europe par ce port. De récentes découvertes archéologiques à Tel Yazaf confirment l'existence, à cette période, de relations commerciales avec Venise, probablement avec des négociants en coton. La structure de piliers en bois servant à l'amarrage, décrite précédemment, fut probablement construite à cette époque pour le commerce du coton et les activités commerciales locales de chargement et de déchargement de marchandises ainsi que de transport de passagers, remplaçant ainsi le port détruit par les musulmans et comblé de sable. Des installations similaires, composées de rangées de piliers en bois de même dimension, ont été découvertes dans la baie nord d'Atli et à l'ouest de Tel Ashkelon. La structure d'Atli a été datée du XIIIe siècle et celle d'Ashkelon du VIIIe siècle. La construction d'ouvrages maritimes en bois est peu courante dans la culture matérielle de la région, où les grands arbres sont rares et très coûteux. Des traces d'importation de bois d'Europe pour la construction de brise-lames ont été mises au jour dans le port romain de Césarée et le port byzantin de Tibériade. Le bois était utilisé pour la construction de charpentes dans lesquelles on coulait du ciment. Les vestiges d'un barrage en bois datant de l'époque romaine ont récemment été découverts lors de fouilles à Naal-Taninim. Cette technique de construction et les matériaux associés ont apparemment été introduits dans la région depuis l'Europe par les Romains et les Croisés. Plus tard, lors de la conquête islamique, l'utilisation du bois dans la construction maritime a diminué et le savoir-faire a probablement été perdu. Les nombreux boulets de canon et obus de fusil trouvés au fond du port corroborent les sources historiques qui documentent les batailles qui se sont déroulées dans la zone portuaire et le bombardement de la ville depuis des navires ancrés en mer lors du siège d'Aquia par Napoléon. Répartition des découvertes dans le port. La répartition des vestiges datant de différentes périodes dans la zone portuaire révèle un retrait progressif de la zone de mouillage intérieur, bassin ouest, zone C, vers l'entrée du port moderne, zone B, et, à l'extérieur, vers le bassin E, zone A. La plupart des vestiges des périodes hellénistiques et romaines ont été mis au jour dans le bassin ouest, à l'intérieur de la marina actuelle. Les nombreux vestiges byzantins à l'entrée de la marina pourraient indiquer une intense activité maritime dans la zone B durant cette période, ou provenir simplement d'une seule épave. Les vestiges croisés ont été principalement retrouvés dans la zone B, près de l'entrée du bassin ouest. Cette répartition témoigne de changements fondamentaux dans les conditions de mouillage à l'intérieur du port, telles que l'accumulation de sable, qui empêchait les navires à fort tirant d'eau de mouiller en toute sécurité. D'après les découvertes faites lors des fouilles du port d'Akko, on peut déduire que les brise-lames furent construits à l'époque hellénistique et créèrent le bassin occidental, qui connut son apogée durant les périodes hellénistiques et romaines. À l'époque byzantine, les conditions de mouillage se dégradèrent et le brise-lame sud semble avoir été en ruine. À la fin de la période d'Omeyyade et durant la période abbasside, de la fin du 8e à la fin du 11e siècle, la superficie du port fut étendue vers l'est et le rempart oriental fut construit, reliant la tour des Mouches à la rive nord de la baie. Un dessin de 1686 représente le brise-lames sud comme une rangée de barbasses entourant un bassin fermé. En revanche, sur des illustrations et des cartes plus tardives, plusieurs bâtiments relativement hauts, de la même hauteur que ceux de la tour des Mouches, apparaissent à l'extrémité orientale et au centre du brise-lames sud. À la fin du XVIIe siècle, de grands bâtiments furent apparemment érigés sur la digue sud, mais ils n'existent plus aujourd'hui.